France Culture.
En fait, j'aime pas grandir parce que depuis que je suis née, je me trouve géniale. Et maintenant, je suis pas sûre si c'est vrai.
Bonjour le Book Club, bonjour Marie et bonjour Émilie Tronche. Merci pour le journal de Samuel, la série animée et la bande dessinée qui donnent vraiment la sensation de plonger dans le journal intime d'un préado dessiné que vous auriez ensuite mis en mouvement. Et on ressent d'ailleurs dans le journal de Samuel toute l'intensité de cet âge, de cette préadolescence à 10 ans.
Ma mère me saoule.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Vous avez peut-être reconnu cette voix, celle de Samuel, petit garçon de 10 ans au début des années 2000, dont on suit les aventures et les états d'âme en lisant par-dessus son épaule son journal plus complètement secret du coup. Allons-y pour les chiffres, 45 millions de vues sur la plateforme Arte. Pour cette série animée en une vingtaine de chapitres, c'est dire s'il y a quelque chose dans ce personnage qui a su toucher quelque chose à l'intérieur de pas mal de gens. Aujourd'hui sort le roman graphique adapté de cette série et l'on retrouve, ou l'on découvre, les silhouettes filaires de Samuel, Julie, Dimitri, Basile ou Corentin. Fin d'enfance, début d'adolescence et palette infinie des émotions. Émilie Tronche, sa créatrice, est l'invitée de votre book club. Ensuite, on retrouvera Mathilde Wagman qui est attentive pour nous aux parutions jeunesse. Elle se demande aujourd'hui quelle place est faite aux chansons très présentes dans la série Samuel. Il n'y a pas vraiment beaucoup de recueils, on en parlera. Et ce sera une transition toute trouvée pour jouer ensemble au grand jeu des pages musicales. Un book club très cohérent en somme. On est ensemble pour une heure. Bienvenue tout le monde. Bonjour Émilie Tronche.
Bonjour.
Le journal de Samuel sort après avoir été cette série à succès diffusée sur Arte et qu'on peut voir en intégralité si on veut le 22 mai à 23h tout entier dans sa version longue. Ça devient un livre de papier en coédition Arte et Casterman. Soyez la bienvenue dans le Book Club de France Culture. On est ravis de vous recevoir.
Merci beaucoup. Je suis ravie aussi d'être là.
Vous êtes invitée le jour J de la sortie. Ça arrive de temps en temps au Book Club. Qu'est-ce que vous ressentez?
Je ressens de l'excitation. J'ai hâte de le voir dans les librairies en fait. J'adore aller dans des librairies comme ça pour passer le temps, juste pour feuilleter des livres et ouais, ça, j'ai hâte de tomber un peu sur mon livre comme ça.
Vous passez du temps souvent dans les librairies, vous y cherchez quelque chose?
Je pense que je dois chercher quelque chose, mais je sais pas quoi. Mmh. Et souvent, j'y rentre et parfois je ressors sans rien, mais juste ça me fait du bien d'être dans des librairies, ouais. De feuilleter, de lire les résumés derrière ou de lire les premières pages. C'est ma grand-mère qui me disait tout le temps pour choisir un livre, c'était un bon indicateur de lire la première page d'un livre.
Et vous la suivez? Vous suivez son conseil?
Ouais.
Et ça fonctionne?
Ça fonctionne, ouais, je pense. Je pense que ça fonctionne bien, oui.
Pourquoi ça révèle quoi, d'après vous, la première page d'un livre?
Je pense qu'on peut... déjà, on peut voir un peu le style d'écriture. Et puis, je sais pas, voir si le style nous prend, si le personnage... Et puis, je sais pas, il y a une curiosité. On se dit, ah, comment un auteur il va démarrer son livre? Par quoi? Qu'est-ce qu'il va choisir? Ça va être quoi la première phrase? Donc, je sais pas, il y a des choix qui se font... Enfin, des choix trop importants qui se font dès la première page. Et c'est... Je sais pas, j'ai beaucoup de curiosité de savoir comment, enfin voilà, quels sont ses choix.
C'est cruel pour les autres, mais en tout cas, c'est vrai que ça marche souvent comme ça. Et vous allez aussi bien vers des romans graphiques avec une grande place pour l'image, on va y venir, c'est votre formation, que vers des romans ou que vers des recueils de poésie. Tout vous attire potentiellement?
Ouais, je lis de tout. Je lis de tout. C'est vrai que je lis beaucoup de bandes dessinées, beaucoup de mangas et aussi beaucoup de romans. J'achète beaucoup de livres. Je sais que je suis une grande consommatrice et que je ne lis pas forcément. Donc j'ai des piles de livres qui m'attendent. Et voilà, j'ai ce truc de... J'aime l'objet du livre, du roman, enfin voilà, de cet objet de couverture avec des pages.
C'est un objet qui vous est familier? Vous avez grandi dans une maison ou dans un endroit où il y en avait?
Ouais. Depuis toute petite, mes parents... j'ai deux sœurs et ils nous lisaient beaucoup d'histoires. Je me souviens du premier, enfin pas le premier, mais en tout cas un livre qui m'a marqué, c'est La petite taupe qui cherchait qui lui avait fait sur la tête.
Ouais.
Et celui-là, je sais pas, on le demandait toujours, tous les soirs.
C'était classique, ouais.
Ouais, on savait comment ça. Non, je crois que j'oubliais comment ça se terminait. Je sais pas, on voulait le relire. Enfin, on voulait qu'on nous le lise tout le temps. Donc
ça, c'est vraiment un album, ce qu'on appelle un album jeunesse, avec une grande place faite au dessin.
Oui,
si je vous parle enfance et livres, ce serait ça qui vous reviendrait.
Il y a ça qui revient, Tom Tom et Nana aussi, évidemment. On a une On les a tous en fait à la maison, une grande pile. Et quand je reviens chez mes parents, je les relis. Et c'est toujours aussi génial. C'est incroyable. Je sais pas. Là, ce qui me vient comme ça, c'est comment la dessinatrice dessine la saleté, le cracra. Et je sais pas où le motif de moquette sur du restaurant de Tom Tom, enfin des parents de Tom Tom et Nana, de je sais pas tout, la chouquette géante, tellement de choses qui me reviennent là comme ça, la boue. Je vois beaucoup de boue dans Tom Tom et Nana quand ils salissent leurs affaires. Je sais pas, ouais, c'est vraiment incroyable.
Vous mentionnez les deux sœurs avec lesquelles vous avez grandi, ça veut dire que la lecture, elle est liée à quelque chose comme ça de familial, de sororal, ou vous aviez aussi des temps de lecture pour vous, Émilie Tronche?
Je pense que ma grande sœur est une grande lectrice et je lui demandais déjà petite, enfin, ce qu'elle lisait et c'est elle qui me conseillait. Et puis il y avait ce truc aussi où je voyais qu'elle lisait et du coup ses livres tout de suite devenaient, je sais pas.
Enviables, désirables.
Ouais, c'est ça. Mais elle a 2 ans de plus que moi, mais à l'époque pour moi c'était très long et donc c'était des livres que je pouvais pas lire tout de suite. Donc il y a ce truc, ouais, d'un peu, je pense, d'admiration vis-à-vis de ses lectures. Je l'ai encore aujourd'hui, je lui demande toujours ce qu'elle lit et je me précipite en librairie pour acheter ce qu'elle lit.
Et ça marche ou pas?
Ouais, ça marche.
C'est vrai.
C'est quelqu'un
à qui on peut faire confiance, ouais. Côté lecture.
Ouais, je la suis les yeux fermés.
Si on quitte le monde des lectures d'enfance et qu'on va un peu plus loin, peut-être à l'adolescence ou au début de votre vie d'adulte, est-ce qu'il y a des lectures qui ont été comme ça, importantes, que vous pourriez citer comme des jalons?
Ouais, là, ce qui me vient, c'est le journal de Georgia Nicholson, de Louise Renison. C'est un livre, c'est hyper drôle. C'est un journal d'une adolescente, une collégienne qui a un chat horrible et qui a des problèmes très graves. Et enfin, je sais pas, j'adore son ton. Elle a un humour délicieux et ouais, ce livre, du coup, c'est plusieurs tomes et vraiment, je me les avalais, quoi.
Vous avez lu ça à quel âge?
J'ai lu ça au collège, mais je dirais peut-être 4e, 3e.
Et découvert comment?
Découvert, on les avait dans notre bibliothèque familiale depuis longtemps. Et je sais pas, la couverture, au départ, quand j'étais petite, je la trouvais très bizarre. C'est Claire Bretéchet qui avait dessiné les couvertures. Et je sais pas, je trouvais ce dessin bizarre à l'époque, parce que j'étais habituée plus, je sais pas, d'autres sortes de dessins, plus mignons ou quoi. Et là, je sais pas, c'était un dessin un peu captivant. Mais du coup, je sais pas, ce livre, je me disais, ok, c'est pas pour moi, c'est pour les grands et tout. Et en fait, je sais pas, je me suis lancée à un moment et c'est devenu mon, surtout, enfin, peut-être le premier tome et le deuxième tome, c'est devenu mes livres de chevet. Je les relisais et je me marrais vraiment. Ça m'arrivait pas souvent vraiment de lire un livre et vraiment de rigoler bouche ouverte, quoi. Enfin, je sais pas, généralement je ris plutôt intérieurement. Et là, c'est
des éclats.
Ouais, c'est ça.
Vraiment, et c'est assez beau par ailleurs que vous citiez un journal comme étant un premier choc comme ça de lecture de grande, d'adolescente Émilie Tronche, parce que ce fameux livre dont on va parler tout à l'heure, c'est un journal, c'est la forme que vous lui donnez, ce journal de Samuel. Et c'est vrai que si l'on y verse quelques larmes, on y rit aussi beaucoup. Donc ouais. C'est assez beau que vous citiez ce premier livre. Et si on avance un peu dans votre vie de lectrice, qu'est-ce qu'on trouve d'important qu'aurait joué aussi je sais pas, peut-être qui vous aurait fait changer de territoire ou qui vous aurait ému ou révélé quelque chose.
En grandissant, je pense que là il y a des mangas là qui commencent à arriver à ce moment-là. Quand j'étais au collège, je trouvais que les mangas c'était trop bizarre visuellement, je comprenais pas et je sais pas pourquoi ça m'apportait même une sensation un peu de déprime, je sais pas, très bizarre.
Mais le noir et blanc peut-être quand même beaucoup de mangas qui sont.
Le noir et blanc. Je me souviens de mes amis qui lisaient Nana. Et c'était des filles avec des très longues jambes, un maquillage noir et tout. Et je sais pas,
Vous êtes au collège dans les années 2010.
Ouais, c'est ça.
Donc il y a aussi une espèce de grand essor en librairie et dans les bibliothèques, dans les CDI où ça commence à débarquer de manière massive.
Ouais. Donc j'étais un peu dans le refus de vouloir lire des mangas. Et en fait, c'est venu avec mes études d'animation, en fait. Quand je suis rentrée en école d'animation, et en fait, les gens autour de moi en lisaient aussi, et puis je suis tombée dedans, dans les films japonais, mais aussi les mangas, et là, aujourd'hui, j'en lis beaucoup, et c'est toujours le truc d'essayer de trouver un peu la la pépite, tout ce qui va nous, ouais, nous procurer de l'émotion et tout.
Et vous auriez comme ça une pépite à nous suggérer, ouais, à nous conseiller suggérer. Quelque chose où vraiment vous vous êtes dit, ah tiens, ça c'est vraiment quelque chose qui me parle à moi, très précisément à moi.
J'ai là en tête, parce que vraiment je les ai lus mais tellement de fois, et puis d'ailleurs ça m'a pas mal inspiré aussi pour Samuel, Rough avec mon super accent anglais, de Mitsuru Adachi. C'est un auteur des années 80-90, et donc c'est pareil, c'est un manga de ces années là donc voilà, des choses qui vieillissent pas forcément très bien, mais il a un art du storytelling qui est vraiment incroyable. Et c'est sur
ça raconte quoi?
C'est des lycéens un personnage masculin principal qui fait de la natation. Donc c'est un manga de sport, donc ça parle de sport, mais en fait ça parle des sentiments qu'on ressent à cet âge-là, d'amour aussi, et j'aime énormément les romances. Je cherche les bonnes, et dans celle-ci elle est vraiment vraiment très belle. Il y a une sorte de triangle amoureux, mais enfin, il est vraiment très bien écrit. Les personnages sont attachants, et justement, c'est ce triangle amoureux là qui m'a aussi inspiré.
Bérénice, Samuel et Julie.
Ouais, c'est ça. De surtout pas délaisser un personnage. Vraiment, chaque personnage a son propre vécu, sa personnalité. Et il faut pas qu'on sente qu'il y a un duo qui s'élève par rapport à d'autres. Et enfin voilà, il y a plein de ressorts comme ça. Et donc ce manga, je l'aime beaucoup. Il a une place dans ma bibliothèque toute particulière.
Elle est rangée comment, votre bibliothèque?
J'ai une bibliothèque dans un coin de mur qui est vraiment dans le mur en renfoncement.
Je les adore, c'est mes préfs.
Ouais, c'est très très beau.
Pourquoi, mais ouais, ouais. Toujours.
Et j'ai au milieu de mon salon une grande étagère qui traverse, qui est en poutre en fait. Donc ça sert aussi de, c'est un peu une sorte de mur étagère rempli de livres. Là, je mets un peu plus mes livres, on va dire mes grands livres, les beaux livres où on voit les couvertures et ça donne envie de tirer un livre et de regarder ce qu'il y a dedans.
Vous avez glissé au passage que vous aimiez les romances, Émilie Tronche. Ça fait aussi partie de ces genres littéraires qui ont été très importants en librairie et pour des lectrices et lecteurs de votre génération. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui ont été très marquantes dans ce genre-là pour vous?
Oui, mais je sais pas si c'est des romans vraiment romances. Enfin, c'est plus, j'adore.
Vous aimez les histoires d'amour, quoi.
Ouais, c'est ça. Et quand il y en a une qui est fondue dans une histoire, par exemple, là, je pense à Anne de la maison au pignon vert, Anne de Green Gables, de Louise Montgomery, je crois que c'est ça. Voilà. Et voilà, le livre parle, donc c'est une jeune orpheline qui est recueillie chez un couple dans la campagne canadienne, sur une île au Canada. Et ça a été adapté dans plein de versions. Il y a eu des films, il y a eu une série en animation par Isao Takahata. Enfin, voilà. Et ce livre parle de cette jeune fille qui va grandir. Elle a un tempérament, elle est très maniérée, elle est un peu, elle peut être un peu agaçante parfois, mais justement c'est ça que j'adore, c'est qu'elle a vraiment sa personnalité à elle. Et puis elle est forte et elle a ses rêves et elle est émerveillée de tout. Et parfois justement cet émerveillement il peut être hyper lourd, mais enfin, et elle est drôle aussi. Et elle déteste qu'on lui dise, qu'on lui parle de ses cheveux. Parce qu'elle est rousse et elle déteste qu'on
évoque la couleur de ses cheveux.
C'est ça. Mmh. Elle est très complexée par ses cheveux. Et dans ce livre, il y a, je sais pas, je pense que si on les met bout à bout, il y a peut-être 30 pages qui évoque ce garçon qui est amoureux d'elle. Et c'est juste ça dans le livre.
Mais ça suffit en fait. Coup de cœur pour vous.
C'est ça, ouais. Parce qu'il y a cette frustration. Je trouve que la frustration en amour, elle est trop importante, en tout cas dans les histoires. Justement, pas en donner un petit peu, puis en reprendre, et puis lâcher des petits trucs comme ça. Ouais, ça j'adore. Et donc, du coup, ce livre, quand je pense à une histoire d'amour, je pense à celle-ci, alors que c'est pas le sujet forcément du livre.
Vous avez mentionné votre formation en école d'animation et on a rencontré le journal de Samuel par cette série animée sur la plateforme Arte, Émilie Tronche. On dit du travail d'animation que c'est un travail très prenant, comme plein d'autres métiers, mais très long, où il faut être endurant, où il faut vraiment pas lâcher l'affaire. Une course de fond. Est-ce qu'il reste de la place pour la lecture dans ces moments-là, dans la période où il faut vraiment travailler à la matière même du dessin animé?
Oui, ouais. Il y a toujours cette place-là et elle est vraiment importante justement pour oublier son propre travail. c'est trop important. Mais c'est vrai que du coup, je lisais moins de livres qui allaient parler du sujet que j'étais en train de traiter, quoi. Donc, c'est vrai que les livres qui parlent d'enfance, les BD, par exemple, j'ai pas lu Les Cahiers d'Esther pour cette raison, parce que je sais pas, je voulais.
Ça croisait trop le travail que vous étiez en train de faire, ouais.
Je pense, ouais, c'est ce que je me disais. Enfin, et en plus, c'est ma grande sœur qui me l'a acheté, elle me l'a offert, et là, il attend toujours. Mais je vais le lire et je suis sûre que je vais adorer. Mais c'est vrai que du coup, je voulais pas que ça m'influence trop, ou je sais pas, que je me dise, ah tiens, c'est vrai qu'il y avait ça, et enfin, je sais pas. Il y a des choses comme ça que j'ai pas pu lire, mais en revanche justement, je trouvais énormément de réconfort dans les œuvres, et ça me redonnait l'impulsion. Les moments où j'avais moins d'inspiration, où je trouvais que mes idées étaient nulles, en fait, de lire et d'aimer quelque chose, même si ça c'est totalement différent, ça redonne cette impulsion de moi aussi je vais raconter des histoires.
La dernière question de ce questionnaire lecture, est-ce que vous avez un horizon? Est-ce que vous vous dites tel auteur, telle autrice est faite pour moi, j'y viendrai un jour, je sais, j'ai comme un rendez-vous, pas tout de suite, mais un jour j'irai vers ça et je suis sûre que il y a quelque chose pour moi à trouver là-dedans.
Vu la pile de livres qui m'attend là,
mais un truc que je me suis plus fort que les autres,
plus fort que Virginia Woolf. J'ai lu Une chambre à soi que j'ai lu plusieurs fois, que j'adore, j'aime énormément, mais j'ai envie de lire ces autres livres, La promenade au phare, Les vagues. C'est ça qui m'attend. J'ai envie d'avoir un moment où je peux me poser avec.
Magnifique rendez-vous. On va parler de votre livre à vous, Le journal de Samuel, juste après cette chanson qui s'appelle Cœur, écrite et interprétée par un artiste qui s'appelle Nenu. Elle vient tout juste de sortir et comme dans votre roman graphique, il y est question de savoir, pouvoir, vouloir exprimer ses sentiments. Voilà ce que chante Nenu. Tu dis qu'on serait plus tranquille sans les mots, mais sans les mots, c'est un hiver sans manteau. C'est vrai que depuis le début, c'est grisant. Moi, j'ai bégayé sous sentiments déguisés.
Tu dis on va pas en parler sans 10 ans. Je peux m'asseoir t'écouter comme un ami. Tu t'étires et tu me regardes en 10 ans. Viens t'enrouler dans mes bras comme un amant. Je sais que tu sais très bien conduire sans les mains, et moi j'ai du mal à continuer sans t'aimer. Tu dis qu'on serait plus tranquille sans les mots, mais sans les mots c'est un hiver sans manteau. C'est vrai que depuis le début c'est grisant. J'ai bégayé sous sentiment déguisé. J'ai bégayé sous sentiment déguisé. J'ai bégayé, j'ai bégayé. Tu sais bien comment faire mon bonheur. Accélération brutale pour soigner le mal de cœur. Fais-en moi voir de toutes les couleurs. Accélération brutale pour soigner le mal de cœur. Tu sais bien comment faire mon bonheur. Accélération brutale pour soigner le mal de cœur. Fais-en moi voir de toutes les couleurs. Accélération brutale pour soigner le mal de cœur. Accélération brutale pour soigner le mal de cœur. Fais-en moi voir de toutes les couleurs. Accélération brutale pour soigner le mal de cœur. Tu sais bien comment faire mon bonheur. Accélération brutale pour soigner le mal de cœur. Fais-en moi voir de toutes les couleurs. Accélération brutale pour soigner le mal de cœur. 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 Accélération brutale pour soigner le mal de cœur.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
J'ai l'impression que dans la vie, il y a plus de mauvaises choses que de bonnes. Faisons une liste pour voir. Mauvaises, la pluie, les devoirs, la mort, les gens que j'aime pas. Bonnes, le soleil, l'ordinateur, la guérison. Peut-être que vous avez reconnu une des pages du journal de Samuel. L'adaptation en livre de la série à succès diffusée sur Arte est aujourd'hui au programme de votre book club. On y retrouve ou on y découvre le trait singulier de son autrice, les grands yeux ovales de son personnage, ses 10 ans et ses certitudes prêtes à valdinguer. « J'aime pas l'amour, dit-il, je dois faire une pause pour prendre un peu de recul. Et je ne voudrais rien divulgâcher de la lecture ou du visionnage. Mais pour quelqu'un qui n'aime pas l'amour, Samuel y pense beaucoup. Le journal de Samuel version roman graphique apparu aux éditions Arte et Casterman. On en parle avec vous, Émilie Tronche, juste après le début.
Je m'appelle Samuel, j'ai 10 ans et j'ai un problème. Mais bon, j'ai pas trop envie d'en parler. Bon, en fait, mon problème, c'est que Basile a dit à la grande Julie que je l'aimais. Il est trop chiant, Basile, il aime trop se mêler de tout, je le hais. Julie, c'est pas que je l'aime, c'est juste qu'elle a rigolé à une de mes blagues il y a pas longtemps, donc j'ai dit à Basile que je trouvais ça sympa de sa part. Bon, en fait, je l'aimais, personne ne doit savoir, même pas Corentin. Corentin, c'est mon meilleur pote, je précise. J'ai décidé que je l'aimais quand elle s'est assise à côté de moi dans le bus.
Disons que je réfléchis dans les histoires en termes de personnages. Voilà, c'est... Et donc je me dis, bah, si tel personnage il parle comme ça, bah, je vais essayer de retranscrire sa façon de parler. J'aime bien la façon dont le langage évoque tout de suite un univers économique, social ou une classe ou je sais pas. Voilà, c'est vrai que je m'interdis rien de ce point de vue-là. Vraiment, je réfléchis par personnage.
C'est la voix de Riyad Satouf pour ouvrir cette conversation avec vous, Émilie Tranche. Et juste avant, on entendait le début parler du journal de Samuel. Quand est-ce que vous avez trouvé cette voix ?
La voix de Samuel ?
Ouais, la voix écrite, la voix texte. Évidemment, il se trouve que vous la faites pour la série, mais ce ton ?
Je pense que je l'ai façonné au fur et à mesure des épisodes. Même le timbre de voix aussi. Je sens que j'ai un peu plus parlé comme ça. Je baisse de tonalité et le ton c'est vrai que c'est à chaque début de scénario, enfin quand je me mettais devant une page blanche, il fallait absolument que ce soit blanc pour qu'il n'y ait pas de choses qui me, je sais pas, d'autres écritures qui viennent un peu parasiter, et j'imaginais que j'étais un enfant, donc c'était vraiment imiter un enfant quoi, et je commençais à taper très vite sur mon ordinateur et les mots sortaient. Et c'est ce que dit Riyad Satouf, c'est de rien s'interdire. Et donc là, je laissais vraiment parler le subconscient, en fait. J'essayais qu'il prenne un peu le lead et faire sortir des phrases étranges. Parce qu'un enfant, il a ça aussi, il est sans filtre et il peut tout dire, quoi. Il dit tout ce qui lui passe par la tête et ce qu'il a entendu dans la journée. Et donc il parle avec son langage à lui, qui peut parfois être plus simple. Et puis tout d'un coup, il va mettre des mots un peu plus soutenus et ça va faire comme une petite, je sais pas, un petit éclair de génie là-dedans, ou même une pensée un peu plus profonde qu'une autre. Et donc voilà, donc faut aller un peu se balancer entre tout ça, entre le subconscient, entre ce journal, la plainte, essayer de reconnaître les états d'âme de mon personnage.
Vous vous décrivez devant votre ordinateur page blanche. Ça veut dire que c'est vraiment par l'écriture avant le dessin, Émilie Tronche, que quelque chose de Samuel et ses copains et cette histoire arrive?
Oui, ouais, c'est vrai que c'est l'écriture qui prime d'abord. Mon écriture est quand même assez organique entre le dessin et le scénario pur.
D'ailleurs, dans le livre, c'est une écriture à la main qui existe aussi dans la série, mais il y a quelque chose qui... On sent que les mots sont importants.
Oui, ouais, mais ouais, j'attache vraiment une... C'est trop important pour moi... ce moment-là de l'écriture, et surtout ça me donne l'impulsion en fait du début pour me mettre dans la peau du personnage plus que le dessin. En fait, le dessin, j'ai toujours l'impression de regarder mon personnage et du coup d'être quand même un peu plus à l'extérieur, alors que dans l'écriture, surtout, enfin, vu que c'est vraiment son journal intime, je me sens comme lui en fait, avec lui à l'intérieur, et donc j'arrive à mieux le comprendre que peut-être par le dessin, je dirais.
Dans la publication chez Casterman RT, il y a vraiment l'idée qu'on tient ce journal dans les mains, y compris dans la facture, les bouts arrondis du livre, la matière, la pagination. Cette idée du journal intime est un objet important dans beaucoup de vies d'enfants pré-adolescents. Oui. Ça vous est venu immédiatement que ça aurait cette forme-là, l'idée du journal ?
Oui, ouais, très tôt, très vite. En fait, et surtout cet objet en fait du journal, ça tombait un peu sous le sens, et on a rencontré les éditeurs de Casterman très tôt quand j'étais en train d'écrire mes épisodes pour la série, et en fait ils nous ont tout de suite proposé l'idée, et c'était oui tout de suite aussi pour nous, donc oui, ouais, cette forme du journal intime, et en plus de ça, je trouve que le fait d'avoir cette voix du personnage, elle m'aide dans la narration aussi. Donc dans la série d'animation, ça m'aide à rythmer mes histoires. Dans le livre, on a cette écriture qui vient ponctuer les pages. Et je m'autorise aussi à la couper totalement. Donc dans la série, ce qui est des silences, pour laisser peut-être plus la place aux spectateurs. Et dans le journal, laisser des pages, des doubles pages vides, sans rien, sans texte, juste quelques dessins pour avoir la voix du lecteur.
Et justement, vous parlez là de la manière dont peut se retranscrire un rythme dessiné ou animé à l'écran à ce qu'on tient ensuite dans nos mains dans le livre. Ça joue sur la mise en page, ça joue sur les corps, la rythmique. Émilie Tronche, quel genre de questions s'est posé pour vous dans l'adaptation de cette série vers le livre? Même si au final, ce que je comprends, c'est que vous aviez l'idée que ça deviendrait un livre quasiment dès le départ.
Oui. Mais c'est vrai qu'en faisant ma série, je pensais que... D'ailleurs, j'imaginais ma série sur un cinéma. C'est comme ça que je l'imaginais. Et enfin, voilà, du coup, je la pensais pour ce médium-là. Mais, et donc, quand on est vraiment rentré dans l'adaptation du livre, évidemment, il y avait plein de choses qui se sont posées, notamment le fait qu'il n'y ait plus la dimension sonore, et les danses, le mouvement. Mais ça ne m'a pas dérangée. Je ne sais pas, il y a un autre rythme, en fait, dans le livre qui est tout aussi vivant. Que l'animation et donc ouais ce rythme il est on va dire qu'il dépend du fait de tourner les pages donc qu'est-ce qui arrive sur la page de gauche puis sur la droite qu'est-ce qu'on montre combien de dessins on met par page est-ce qu'on laisse bah voilà est-ce qu'on fait une grande page une double page le texte où est-ce qu'on le met où le personnage va regarder est-ce qu'il regarde à l'extérieur du livre ou est-ce qu'il regarde à l'intérieur il regarde l'autre personnage Enfin ouais, c'était des nouvelles questions et d'autres expérimentations. Et en même temps, je retrouvais un peu les questions que je me posais quand je faisais mon storyboard.
On va écouter Jérémy. Il a regardé la série, il a lu le livre.
Bonjour le Book Club, bonjour Marie et bonjour Émilie Tronche. Félicitations et merci pour le journal de Samuel. On ressent toute l'intensité de cet âge, de cette préadolescence à 10 ans. Où tout prend d'immenses proportions, parce qu'on est un peu entre l'innocence de l'enfance et une certaine cruauté parfois de l'âge adulte. Et on a vraiment l'impression de revivre une adolescence en lisant le vrai journal d'un enfant de 10 ans et pas une fiction qui singerait maladroitement cet âge. On s'y retrouve encore plus d'ailleurs quand on est trentenaire avec les codes de MSN, de la Coupe du Monde 2006 ou des vieux téléphones entre autres. Et on voit aussi l'importance de l'imaginaire dans cette période de la vie, que ça passe par la musique, les films, les BD, les mangas, ou même l'imagination presque sans limite qu'on a dans cet âge charnière. Et donc, au sujet du journal de Samuel, j'avais deux questions. Je me demandais quelles avaient été vos influences, et je me demandais aussi pourquoi j'avais la sensation que la série animée avait une tonalité un petit peu plus mélancolique que la bande dessinée. Merci.
Merci à vous, Jérémy. Quelles influences pour ce travail, Émilie Tronche?
L'influence, ouais, il y en a eu. Là, comme ça, ce qui me vient, c'est mes carnets, en fait, mes carnets de dessins. J'avais envie que ça ressemble un peu à ça, quoi. Un carnet où il y a toutes ces pensées, où on peut passer d'une pensée à l'autre, sauter du coq à l'âne, et puis qu'il y ait des dessins un peu gribouillés partout. Je voulais qu'il y ait un peu cette sensation-là aussi. Et ouais, encore une fois, je pense qu'il y a un peu une influence manga japonais dedans, dans certaines séquences où je sais pas, je trouve que dans les mangas ils ont beaucoup ce truc de faire des très grandes cases d'un coup de jouer avec le format, avec les cases. Il y a une dynamique que je trouve très intéressante et je pense que ça a été forcément une de mes inspirations.
Après, Jérémy parlait de quelque chose d'un tout petit peu moins mélancolique dans la transposition en livre. Est-ce que c'est quelque chose qui a été intentionnel ou c'est peut-être...
Non, ça l'a pas été, mais je peux le comprendre. C'est vrai que déjà dans les... Peut-être que je suis moins triste maintenant. Mais c'est vrai que dans la série, il y a les musiques et je pense que... Je sais pas, il y a certaines musiques, forcément, elles convoquent une mélancolie, une nostalgie... c'est propre à la musique, en fait. Enfin, ouais, là, comme ça, c'est ce qui me vient.
Et sinon, dans cette adaptation, parce qu'il y a des moments de texte, en tout cas, pour avoir parfois comparé les deux, que vous avez coupé, est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas reportées d'un support à l'autre?
Oui, bah, notamment, justement, les paroles de la musique, puisqu'il y a des droits musicaux, sur le format papier aussi, et donc ça a été, forcément, il a fallu faire des choix. Je pense pas. On a essayé de tout garder le plus possible. Mais c'est vrai que, par exemple, dans l'épisode du spectacle de danse, donc il y a toute une scène où c'est vraiment des enfants qui dansent sur scène. Il y a cette musique au piano qui accompagne. Et ça, il fallait. Ben, j'avais pas juste envie de mettre mes animations plein de dessins, je sais pas, mais il fallait quand même ressentir le mouvement et ressentir ce que ressent Samuel en tant que spectateur, vu que c'est lui qui regarde ce spectacle. un peu l'immensité de ce spectacle. Enfin voilà, tout d'un coup, il est parcouru par des frissons tellement il trouve ça beau. Et donc là, j'ai fait plein de nouveaux dessins. Je me suis affranchie de mes storyboards et j'ai dessiné. Je voulais qu'on ressente la grandeur de la scène, les mouvements, le mouvement synchronisé. Enfin,
vous avez eu le plaisir à les retrouver ou à retrouver Samuel ou à travailler autrement après avoir partagé à ce point et dans cette dimension que j'imagine vous n'aviez pas imaginé à un moment de le mettre
oui,
en ligne.
Oui. C'est vrai qu'après la sortie de la série, c'était assez assez vertigineux et je pense que mon personnage, il me paraissait tout d'un coup un peu plus loin. Enfin, je voyais le succès et moins
lui.
Et grâce à ce livre, en fait, c'est revenu. Donc ça m'a fait énormément de bien de me replonger justement dans mes personnages. Il y a même des scènes que j'avais écrites, enfin qui sont dans la série, qu'en fait je comprenais mieux sur papier.
Vous pensez à quoi, par exemple?
Là, comme ça, c'est un spoil en vrai sur la toute fin.
Ah non, alors non, on fait pas.
Mais il y a des choses même dans la mise en scène me paraissaient beaucoup plus évidentes.
Par exemple, des choses qui se sont éclairées en revenant dessus avec le temps qui avait passé.
Oui, c'est ça. Ouais. Par exemple, il y a une scène où la grande Julie n'a pas répondu à sa carte postale qu'il lui a envoyée pendant l'été. C'est une carte postale où il lui confesse ses sentiments.
Et il lui demande expressément à la fin de lui répondre.
Oui, tout à fait. Et elle n'a pas répondu. Donc il arrive à la rentrée en sixième et il veut pas le montrer, mais il est dévasté, quoi, et énervé, parce que il y a en même temps le collège qui arrive et tout. Enfin, donc il déverse toute sa colère dans son journal et dans l'épisode, ça a été une question justement. Je me suis dit comment le montrer. C'était dans l'enchaînement des plans, dans la rythmique, et en fait dans le journal, c'était évident. Du coup, il y a cette double page où c'est juste du gribouillis, où du coup on voit l'écriture de Samuel partir dans tous les sens. Il commence à gratter le papier. Je voulais qu'on ressente ça. Et enfin voilà, ça par exemple, j'étais trop contente de pouvoir le faire enfin sur papier puisque c'était l'intention de départ.
Il y a aussi Jérémy dans sa question, l'auditeur du book club, qui remarque à quel point ça ravive une époque toute particulière, une époque où il n'y a pas encore les téléphones portables, mais il y a les messageries MSN. C'est un univers musical, même s'ils écoutent finalement de la musique bien plus ancienne que la leur propre, mais il y a quand même le groupe Tokyo Hotel qui arrive. Il y a quelque chose de leurs mots aussi, de leur langage. Est-ce que vous aviez goût pour ça, intérêt pour ça, de mettre sur papier ou sur l'écran quelque chose d'une époque particulière, Émilie Tronche?
Oui, ça me plaisait de me remémorer un peu des petites références à cette époque-là, notamment les feuilles d'idole, MSN, retrouver les sons là, des notifications, les whiz et tout ça. Mais je voulais pas non plus que ce soit trop gros. Je voulais pas déjà que mes souvenirs viennent édulcorer ou changer en fait cette époque-là, puisque les années 2000, elles étaient... Enfin, je veux dire, avec le temps, forcément, tout devient un peu plus... Il y a cette nostalgie, tout devient un peu plus stylé. Enfin, le style des années 2000, aujourd'hui, c'est un peu cool et tout. Mais je voulais pas faire ça. Donc c'est pour ça que je voulais juste...
Aussi parce que ça ouvre, c'est-à-dire que la légèreté de l'évocation de cette époque fait que si on n'a pas du tout eu 10 ans au début des années 2000, on peut projeter des choses, notamment parce que, comme vous le dites, il y a la question du sentiment amoureux, la question de la honte, la question de la timidité, la question du groupe, de l'exclusion, beaucoup de questions qui sont quand même normalement à peu près communes à toutes les enfances et toutes les adolescences, quelle que soit l'époque, l'endroit, le milieu social dans lequel on les a passées. Vous parlez de vos propres souvenirs, on va écouter un nouvel extrait de la série qu'on se prive pas de ce plaisir sonore, et juste après la voix du dramaturge et auteur David Lescaut.
Comme Corentin, il mangeait son stylo, la maîtresse elle l'a cramé, elle lui a dit: Corentin, tu me ramasses tes affaires et tu changes de place. Et je me mets où? Donc là ils ont échangé de place avec Julie. J'étais trop content, même si elle prenait toute la table avec ses ailes de poulet.
Samuel.
Et là on a commencé à parler de choses et d'autres
questions.
À un moment, elle m'a demandé ce que j'aimais comme truc dans la vie. Je lui ai répondu que j'aimais bien le ping-pong et les arbres. Elle m'a dit qu'elle aimait bien le rock et les catalogues Ikea.
En fait, ce que je fais, c'est que je dispose tous les catalogues autour de moi. Et après, ça peut être aussi, ça peut être la redoute et tout. Et je choisis ma cuisine, mon salon, et même des fois la tête de mes enfants si je les trouve beaux. Et après, je fais les histoires dans ma tête.
J'étais content qu'elle me raconte des trucs privés. Sauf qu'à un moment, on parlait tranquille, et là, la maîtresse, elle m'a engueulée aussi, et elle m'a dit de changer de place. Donc je me suis retrouvée à côté d'eux, Bérénice.
C'est une mémoire qui est faite d'imagination. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est très important de comprendre, c'est que l'authenticité n'est pas toute la mémoire en réalité. C'est-à-dire qu'on s'invente aussi des souvenirs, et ces souvenirs sont très réels. Moi, mon fils me parle de son grand-père, qui est mort bien avant sa naissance, mais il me raconte des souvenirs très précis de leur relation à tous les deux. Et je vais pas dire non, tu te trompes, c'est pas possible, etc. J'écoute très attentivement, je lui pose des questions en lui disant tu te souviens de ça? Et il me dit oui, je me souviens absolument de ça. Donc je crois que la mémoire est vraiment un territoire de l'imagination et tourné vers le passé, parce que le passé est un endroit d'exploration infini, en fait. Il y a une phrase qui dit « on ne sait jamais ce que le passé nous réserve », et moi, je l'aime beaucoup. C'est un peu dans ce sens-là, voilà. C'est très créatif, en fait, la mémoire.
David Lescot, en 2023, sur France Culture, qu'est-ce qu'il y a à peu près comme proportion d'imagination et de votre propre mémoire, Émilie Tronche, dans la manière dont vous avez écrit le journal de Samuel ?
Je dirais que c'est quand même... Quand j'écris, je pars toujours d'un souvenir qui est assez précis dans ma tête, d'une idée, mais c'est très petit, puis je construis mon scénario à partir de cette idée-là, et en fait, cette anecdote, elle est fondue dans un flot de mots, et donc c'est quand même beaucoup l'imagination qui prime. Et après, Samuel, il grandit dans la même maison, moi j'ai grandi, on partage énormément de lieux en commun, donc il y a des choses qui... C'est les bases un peu de son monde à lui que je partage, mais après, dans ce qu'il vit... Dans ses interprétations, c'est de l'imagination. Et lui aussi, d'ailleurs, il en a beaucoup, puisqu'il part aussi dans ses propres rêves, ses propres délires et tout ça. Et... Ouais, mais c'est très intéressant. Ouais. Ça me fait penser, moi, il y a un épisode où c'est la descente de la mort. Mmh. C'est donc Corentin et Samuel qui dévalent une descente qui s'appelle...
Une rue,
la... ouais. Ouais, voilà, on dirait une piste noire de ski. Il la dévale à toute allure en pensant que... pour eux, c'est un défi énorme et que c'est une énorme piste. Et en fait, j'y suis retournée. Enfin, j'y retourne souvent et vraiment...
C'est tout petit.
Bah ouais, c'est tout petit. Il y a une inclinaison, quoi. Mais c'est pas effrayant du tout, quoi. Mm. Mais quand j'étais petite avec mes sœurs, justement, c'était la grande descente de la mort. Mm.
Et vous avez comme essayé d'aller rechercher ces sentiments-là, qui sont peut-être un peu plus grands, un peu plus aigus, un peu plus intenses, quoique la vie adulte réserve beaucoup d'intensité aussi, mais il y a quelque chose que vous êtes allé chercher. Est-ce que vous avez aussi observé les enfants autour de vous pendant que vous écriviez, que vous dessiniez, Émilie Tronche ?
Pas tant que ça. Enfin, si, en fait. Du coup, ma mère est maîtresse de CM2, ma grande sœur aussi. Et donc, il y a toujours une petite fenêtre sur les enfants quand elles nous racontent des anecdotes de leur classe. Donc, c'est vrai que cet âge-là m'a jamais vraiment quittée. Et même, en fait, c'est un âge que j'aime particulièrement et dont j'ai toujours voulu me souvenir.
Pourquoi vous aimez exactement cet âge-là, qui est un âge vraiment charnière, fin d'enfance, début d'adolescence ? Qu'est-ce que vous trouvez intéressant dans cet âge-là ?
J'aime entre l'enfance et l'adolescence, et c'est là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est là qu'il y a un gouffre de énormément de choses qui se passent, de questionnements, est-ce que c'est l'âge aussi où on découvre en fait qu'on n'est pas éternel, on commence à découvrir un peu, ok, la mort, ok, ça, c'est dans
présente,
super longtemps, mais ouais. En fait, c'est trop bizarre. Ouais,
qui est présente dans le journal de Samuel, souvent.
Oui.
Enfin, il y a quelque chose qui, en tout cas...
Ouais, ça revient.
Ouais, autant souvent. Que l'amour, on va dire, ça le questionne, ouais.
Ouais, ouais, vraiment. Et parfois, c'est même inconscient. Enfin, c'est moi qui me rends compte, genre, ah ouais, t'as un petit souci avec les chats morts, par exemple. Enfin,
on a tous des petits soucis avec les chats morts, vous inquiétez pas. On a tous un gros souci avec la mort, non?
Oui, mais ouais, cet âge-là, en tout cas, il est... Enfin, cet entre-deux, en fait, dans cet entre-deux-là, on peut dire tellement de choses au niveau des histoires, puisqu'on peut aller un peu dans l'enfance, puis un peu dans l'adolescence, le montrer par moments un peu plus grand, un peu plus mature, puis tout d'un coup, je le refais tomber un peu en vraiment plus petit, même dans le dessin d'ailleurs je le fais en fait. Parfois il paraît un peu plus grand, ses cheveux sont un peu mieux dessinés.
Il utilise des mots de grand, je dois prendre du recul, ouais, je dois faire une pause.
Ouais. Et puis sur d'autres pages, il a un dessin où on dirait, je dis souvent, on dirait un rocher avec de la mousse sur sa tête. Et voilà, je me permets un peu de le modifier aussi visuellement.
En tout cas, il y a quelque chose qui apparaît et qui, je pense, a généré l'empathie que les spectateurs et les spectatrices ont eu pour lui et pour ses amis, c'est que vous le prenez au sérieux, vous les prenez au sérieux, leurs histoires d'amour sont de véritables histoires d'amour, leurs angoisses sont de véritables angoisses, leurs peurs, leurs joies, leurs émotions sont vraiment au rendez-vous et on sent que vous les écrivez pour de vrai. Ça ne veut pas dire que vous n'en faites rien, enfin, c'est pas quelque chose de lourd, mais en tout cas, on sent que vous y croyez à tout ça.
Ah oui, vraiment, ouais. Enfin, c'est trop important. Et quand moi, je me souviens de mes propres angoisses, elles étaient tout aussi effrayantes que maintenant. Et vraiment, elles pouvaient me bouleverser. Et je sais pas, je me souviens, moi, quand j'étais petite, je me disais vraiment, tiens, ça fait quoi d'être adulte? Puisque là, j'ai déjà l'impression d'être une vraie personne, en fait. Enfin, d'être entière, d'avoir mon cerveau tout à fait, enfin au max de ce qui peut être. Bon, après, tout en sachant que j'allais apprendre des choses, évidemment, mais plus dans un sens, j'étais là, éveillée. Voilà, pourquoi, enfin, c'est tout à fait sérieux ce que je ressens. Mmh. C'était l'objectif vraiment de pas. Je voulais pas non plus rendre les enfants trop mignons, ou je voulais pas qu'on sente que, même si c'est inévitable, mais qu'on sente que c'était moi, une adulte derrière qui écrivait. Enfin,
Comment vous avez fait ça, justement? Parce qu'on entendait Jérémy, notre auditeur, dire à quel point, en effet, il n'avait pas cette sensation. Il n'avait pas cette sensation de surplomb que c'est une adulte qui fait parler un enfant de 10 ans ou des enfants de 10 ans. Comment est-ce que ça s'est joué pour vous pour que, justement, cette voix, en fait, elle touche à ce qu'on appelle la justesse, à ce qu'on appelle, voilà, le bon ton? Ça s'est travaillé comment?
Je pense que je me disais que je me dis que je suis toujours un enfant, enfin je suis toujours une enfant, un prolongement de l'enfant que j'ai été, donc c'est pas loin et je suis pas une autre personne, donc je, même moi, mes propres pensées, en fait, je les mets aussi dans celles de Samuel. Donc il y a un mélange comme ça, et puis il s'agissait de retrouver aussi des intonations, des façons de parler, des mots, des attitudes propre à cet âge-là aussi.
Et la manière dont ils regardent le monde des adultes, parce qu'ils le font beaucoup. C'est-à-dire que quand on entendait la façon dont Samuel entend la voix de la maîtresse, mais aussi, pourquoi pas, les sourcils un peu froncés, les larmes aux yeux de la prof de chorale, ou encore la mère qui danse et l'étrangeté de la mère qui danse. Mmh. On les voit beaucoup regarder les adultes.
Oui. Ouais, et Samuel regarde cet âge adulte avec un peu de... comme dans un aquarium. Mmh, il regarde les adultes faire leur vie et il les prend parfois même pas de haut, mais plus comme, je sais pas, les gens qui sont là pour s'occuper de moi, quoi. Enfin, je sais pas.
Et qui sont bizarres.
Ils sont bizarres, d'ailleurs, il dit ça à un moment. Il dit je trouve qu'en ce moment, on fait pas très attention à moi. On devrait s'occuper de moi, sinon je peux mourir. Enfin, je sais pas, il dit un truc.
Absolument, il dit parce que je suis un enfant.
Oui, c'est très juste. Je suis un enfant. Donc,
mais par ailleurs, Samuel a raison. Les enfants, faut s'occuper d'eux.
Bah ouais, totalement. Voilà, donc il a conscience de ça, ouais.
Il a des grands propos sur la vie. Je commençais la conversation en citant cet extrait de son journal où il dit: j'ai l'impression que dans la vie, parfois, il y a que des mauvaises choses ou plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Et il fait des listes. Et il y a comme ça une façon, en effet, depuis ses 10 ans, d'envisager ce que c'est que l'existence, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'existence, qu'est-ce que c'est que se lancer dans cette grande aventure, et de regarder en effet les adultes se débattre avec elle et même parfois pleurer.
On a séché au parc avec Bérénice. On a fait un peu de parcours de santé, on a trouvé 1 euro dans un distributeur et on s'est fait chier parce qu'on avait froid. On n'aurait peut-être pas dû sécher.
Hey, mais toi, dans ta tête, ça doit être tout gris, comme de la glaise. Tu sais, la journée, elle est pas chiante, hein, c'est juste toi. Hein.
Les garçons, ils pleurent aussi. Hein. Moi, j'ai déjà vu mon père pleurer. Il pleurait pourquoi? C'était quand Jacques Villeray, il est mort. Mon père, il pleure pour les acteurs. T'as déjà pleuré devant un film?
Ouais, au cinéma, mais c'était qu'une fois.
Et toi, quand tu pleures, tu fais du bruit?
Ben, ça dépend de ma tristesse.
Alors, tu fais du bruit... comme ça?
Non, je fais pas ça. Je fais...
Mais toi, t'es fils unique, en fait.
Ben, ouais.
Mais alors, quand tu rentres chez toi, tu fais quoi?
Je sais pas, je vais dans ma chambre.
Et tu parles pas?
Bah non, je fais d'autres trucs. Par exemple, j'écris mes pensées.
T'écris des trucs sur la grande Julie.
N'importe quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. Je vous vois, hein, quand elle vous donne des graines, là, vous êtes tous à fond, là. Vous les picorez. Mes graines. Et donc toi, tu me kiffes toujours?
Non, j'aime quelqu'un d'autre.
Qui?
Bill Kaulitz.
C'est qui, lui?
C'est le chanteur de Tokyo Hotel, mais tu peux pas connaître.
Nous avons joué notre vie ensemble. Et puis, un beau jour, la chance a tourné. On ne finira pas la partie ensemble. Et chacun s'en va, seul de son côté. The winner takes it all, the loser has to fall. Beside the victory, that's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged.
Quand Samuel rencontre Julie, donc c'est un de ses amours, on peut dire ça sans rien dévoiler, Émilie Tronche, oui, quand même, c'est le début, quand même. Le début. Ouais, voilà. Il est toujours tout de suite question de musique. Il est question d'écouteurs, il est question d'écouter un groupe, il est question d'écouter Dire Straits. Ici, on entend une version, une reprise de ABBA. La musique est partout dans votre livre. Évidemment, elle est aussi partout dans la série Arte, le journal de Samuel, et c'est vous qui chantez. Enfin, il y a quelque chose de très présent. Comment est-ce que vous l'expliquez? Tout à l'heure, vous avez parler de ce que ça crée comme éventuel rapport à la mélancolie, mais qu'est-ce que vous lui avez donné dans le scénario comme place?
Une très grande place. Je vois la musique un peu comme un autre personnage même de la série, un personnage à part entière qui accompagne Samuel, qui prend le relais sur ses émotions quand il n'arrive pas à le faire, qui le fait danser. Elle est trop importante. Et c'est vrai que c'est des musiques à la fois que lui peut écouter, ou que ses parents écoutent, que ses amis écoutent, mais parfois c'est même des musiques d'aujourd'hui, juste qui sont là, je sais pas, ouais, pour traduire une émotion. Et la musique arrive très tôt quand j'écris, j'écris avec la musique, pas tout le temps, parfois ça me déconcentre un peu, mais en tout cas elle est vraiment là et c'est très organique. Il y a des scènes qui sont écrites pour une musique en particulier.
Vous pensez à quoi par exemple? Parce que ça a été très marquant pour les spectateurs et les spectatrices, et puis ça le sera probablement pour les lectrices et les lecteurs de votre livre. C'est qu'il y a en effet un tissu musical qui n'est jamais séparé presque de la manière dont vit Samuel et vivent ses amis.
Oui, par exemple, je pense à la scène encore dans l'épisode de la descente de la mort. La chanson de November Ultra, The End,
qui est donc pas du tout de l'époque,
qui est récente, mais dans les paroles c'était elle et pas une autre. Heureusement elle m'a dit oui. et voilà, je l'ai écrite avec, en pensant à cette chanson. Et oui, je voulais pas qu'une musique soit là plus comme un clip, qu'elle arrive comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est trouver des façons de la faire rentrer dans l'histoire et de la faire sortir de l'histoire aussi. C'est vraiment un personnage, quoi. Donc ce personnage, il faut l'introduire et qu'il ait une place justifiée.
Et alors évidemment, quand on a un livre et qu'il n'y a a priori pas de son sauf la voix ou les voix intérieures des lectrices et des lecteurs, comment est-ce que vous avez solutionné ça, Émilie Tronche?
Ce sera... On retourne plus dans le silence, mais je pense que dans certaines scènes, je m'autorisais justement des doubles pages où généralement c'est toujours remplacé par des nouveaux dessins, des illustrations, pleines pages pour traduire aussi cette immensité, je sais pas, de l'émotion de la musique. Je pense à certaines scènes, il y en a d'autres, par exemple la chorale William Scheller, Un homme heureux. Là, on a réécrit les paroles, puisque les paroles ont aussi un sens là dans l'histoire. Et voilà. Donc à chaque fois, pour chaque musique, il y avait toujours une question qui se reposait. Ok, comment on va l'introduire ou comment on va la remplacer?
Et la musique est tellement présente dans votre livre, Le journal de Samuel, que ça vous a peut-être donné l'idée, Mathilde Wagman, vous qui traitez de tout le territoire littérature jeunesse, de vous poser la question de la place de la chanson et de la musique dans ce territoire-là. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Vous consacrez aujourd'hui votre chronique à une forme toute singulière de littérature, qu'est la chanson.
Oui, c'est vrai que j'ai eu envie de faire cette chronique sur la chanson en lisant et en revoyant Samuel d'Émilie Tronche. Une jeune personne de mon entourage est rentrée l'autre jour de l'école en lançant tout guilleret. Tu connais les Champs-Élysées? Les Champs-Élysées, l'avenue, tu veux dire? Maintenant, les Champs-Élysées, la chanson. Ah, est-ce que je connaissais les Champs-Élysées, la chanson, moi? Ben, un peu, mon neveu, enfin mon fils en l'occurrence, Joe Dassin, ouais, ça va, je situe. J'étais heureuse de le voir aussi heureux d'avoir découvert ce tube éternel, en l'occurrence à l'école, grâce à sa merveilleuse professeure de musique, mais presque un peu triste aussi de ne pas avoir été la première à lui permettre de se balader sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, tant la chanson en général compte dans nos vies, tant j'aime partager cela avec mes enfants, tant se joue dans ce partage-là quelque chose d'essentiel, je crois. Nous avons commencé à la chanter tous les deux, mais passé le premier couplet et le refrain, je n'arrivais pas à me souvenir de la suite. Lui ne la connaissait pas encore assez bien pour s'en rappeler non plus. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a été chercher mon téléphone pour trouver les paroles sur Internet. Mais j'ai pas aimé ça, de voir sortir mon téléphone dans ce moment où, pour une fois, il était rangé, loin de nous, et où il ne nous manquait pas. J'ai pensé, ah, si seulement j'avais sous la main un objet qui me permette de retrouver les paroles de cette chanson sans en passer par un écran pseudo-intelligent. Et alors j'ai réalisé, bon sang, mais cet objet existe, on appelle ça un livre. Un livre qui recueillerait les paroles de chansons qu'on pourrait consulter en cas de trou de mémoire ou tout simplement d'envie de chanter, ça doit se trouver.
Et j'imagine que vous avez trouvé, Mathilde, il doit exister plein de recueils de ce type, non ?
Eh ben Marie, à ma grande surprise, non, il n'en existe pas tant que cela. En réalité, des carnets de chansons, c'est comme ça que ça s'appelle. En fait, il existe essentiellement une gamme, les carnets Diapason. Il s'agit de livrets édités par les Presses d'Île-de-France, nom qu'a pris la maison d'édition des Scouts et Guides de France après-guerre. La chanson joue un rôle très important dans le scoutisme et plus généralement dans les mouvements de jeunesse, colonies de vacances de toutes sortes et de toutes obédiences. Soucieuse de trouver de quoi nourrir l'animation des veillées, marches et autres départ en camp qui rythme la vie scout, l'idée est née de rassembler une sélection de chants dans un livre en y joignant aussi les accords de guitare. Bien au-delà du mouvement scout, qui s'est gratté un peu, peut donc, armé d'un carnet Diapason, chanter en s'accompagnant. Ça marche aussi avec un ukulélé ou a cappella. Il en existe plusieurs sortes. Les Diapason jaunes rassemblent les chansons pour les tout-petits, les bleus se consacrent aux chants scout. Ceux qui m'intéressent aujourd'hui sont les Diapason rouges qui recueillent des chansons variées d'hier et d'aujourd'hui, pour la majorité issus d'un répertoire francophone et anglo-saxon. Il en existe 6 volumes à ce jour, chacun comportant les paroles et accords de 300 à 500 chansons. Le premier a été publié en 1991, le dernier apparu en 2017, chaque nouveau tome actualisant en quelque sorte le répertoire de chansons plus contemporaines. Édition qui nécessite un gros travail pour établir la sélection, obtenir l'accord des maisons de disques pour la reproduction, négocier les droits et retranscrire soigneusement les accords de guitare. Taïn Ribeiro, bénévole qui a coordonné l'édition du dernier volume, me racontait ce matin avoir passé des heures à vérifier que les accords collaient bien à la mélodie et aussi avoir porté avec l'équipe un souci d'ouverture en échangeant avec des amis des éclaireurs israélites de France ou des scouts musulmans notamment. On trouve ainsi dans ce volume une chanson arabe retranscrite phonétiquement, mais aussi une petite spéciale dédicace de Jean-Jacques Goldman qui fréquenta autrefois, quant à lui, dans sa jeunesse, les éclaireurs laïcs.
Mais tout ça vous a fait réaliser, Mathilde, que la chanson avait un pouvoir magique.
Et oui Marie, absolument, le pouvoir de nous faire voyager dans le temps. Parcourir les carnets Diapason, c'est se promener dans un livre d'histoire, de Trainet à Christine and the Queens, de Brassens à Diams, de Dalida à Dominique A, des Rita Mitsouko aux Têtes Raides, de Daniel Balavoine à Camille, on enjambe les décennies, des années 30 aux années 2010. Les années, c'est d'ailleurs le titre d'un roman d'Annie Ernaux, dans lequel de très nombreuses chansons sont citées, sans doute parce que chacune d'elles contient à elle seule un petit condensé d'histoire, de mémoire, de vie collective et intime tout à la fois. À la naissance de mon premier enfant, j'ai eu la surprise de constater que les chansons que j'avais spontanément envie de lui chanter étaient des chansons que mes parents aimaient. C'est dans le répertoire de leur époque, de leur mémoire, que j'allais souvent puiser. Mais 9 fois sur 10, j'en yaourtais les paroles, je ne me souvenais que d'un couplet sur 6. Désormais, grâce au Diapason, volume 1, mon préféré, je peux chanter correctement et intégralement Les Crapauds, page 266, Petrouchka, page 304, ou encore Le Galérien, paroles de Maurice Drouet, Truon, arrangement de Léopold Naref, d'après un chant traditionnel russe. Une chanson que mes parents chantaient quand on faisait un voyage en voiture parfois, une chanson qu'ils aimaient tous les deux. « Je me souviens, ma mère m'aimait, et je suis aux galères. Je me souviens, ma mère disait, mais je n'ai pas cru ma mère. » « Je me souviens, ma mère m'aimait », phrase qui contient en elle quelque chose de ce pouvoir magique des chansons quand on les partage avec des enfants. C'est une affaire de mémoire, d'amour et de transmission.
Oh, et vous m'avez émue. Merci beaucoup Mathilde Wagman. Lecture jeunesse à réécouter sur franceculture.fr. Et c'est une transition toute trouvée pour le grand jeu des pages musicales. Émilie Tronche, on joue tous les jours à chercher de la musique dans les livres. Et donc, on a été particulièrement servi, on l'a dit, avec le journal de Samuel. On se quitte donc avec la page du mercredi 12 avril. Salut journal. C'est la nuit là, il y a tout le monde qui dort, mais moi je suis pas fatiguée. J'ai un truc à raconter aussi. Hier, on était à la chorale parce que c'est samedi, et là, il y a eu une rumeur dans les rangs. Comme quoi, Dimitri, il a demandé de sortir à la grande Julie, sur MSN, je crois. Julie, elle regardait le sol, elle voulait pas répondre. Les gens, ils aiment trop faire leur commère de toute façon. Silence ! La maîtresse, elle a dit, tout le monde a bien appris le premier couplet ? Mais là, Dimitri, pour se la péter, il a dit, maîtresse, moi j'ai aussi appris le refrain. Est-ce que je pourrais le faire ? Donc la maîtresse, elle a dit oui, parce que c'est son chouchou. Puis elle a commencé à jouer du piano. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes ? Ils ont, quand ils s'en viennent, le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pousse-toi, je vois rien. Eh, y a Julie et Dimitri. Hein ? Ah, ça sent le love. Après la chorale, Julie, elle a dit qu'elle aimait aussi Dimitri.
Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes ? Ils ont, quand ils s'en viennent, le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes ? Quand ils ont leurs problèmes, bah y'a rien à dire, y'a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne.
William Scheller, tu me permets de faire même une dédicace à ma mère et de rejoindre la chronique de Mathilde Wagman parce qu'elle adore cette chanson. J'espère qu'on vous a toutes et tous donné envie d'aller acheter tous les volumes des Diapasons pour gratter la guitare et d'aller acheter le journal de Samuel d'Émilie Tronche paru aux éditions Arte Casterman. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce book club.
Merci beaucoup.
Au son, c'était Marie-Claire Roumabadi, à la réalisation Vivien Demeyer. Un immense merci à toute l'équipe du book club et particulièrement à Mathilde Wagman. Aujourd'hui, j'espère que vous allez vraiment balancer tous vos souvenirs sur le compte Instagram du book club animé par Alexandra Laïbegovic.